Chapitre 8e. Au fond de la chambre à la porte de laquelle venait de s'agenouiller Herminie, parmi les gens de l'hôtel, on voyait, à la faible lueur d'une lampe d'albâtre, Madame de Beauménil, femme de 38 ans environ, d'une pâleur et d'une maigreur extrême. La comtesse, assise dans son lit et soutenue par ses oreillers, avait les mains jointes. Ses traits, autrefois d'une rare beauté, exprimaient un profond recueillement. Ses grands yeux, jadis d'un bleu vif et pur, semblaient alors ternis. Elle les attachait, avec une sorte de reconnaissance mêlée d'angoisse, sur Monsieur l'abbé Ledoux, prêtre de sa paroisse, qui venait de lui administrer les derniers sacrements. Un moment avant l'arrivée d'Herminie, Madame de Beauménil, abaissant encore le ton de sa voix, déjà bien épuisée par la souffrance, disait au prêtre « Hélas, mon père, pardonnez-moi, mais à ce moment solennel, je ne puis m'empêcher de songer avec plus d'amertume encore à cette pauvre enfant, ma fille aussi, triste fruit d'une faute dont le remords a flétri ma vie. « Silence, madame, » avait répondu le prêtre qui, jetant un coup d'œil oblique sur le groupe des domestiques, venait de voir Herminie se mettre à genoux comme eux. « Silence, madame, » reprit l'abbé. « Elle est là. »« Elle ? » ?»« Oui, elle arrive à l'instant. Elle s'est agenouillée parmi vos gens. » En disant ces mots, le prêtre alla discrètement fermer les deux vantaux de la porte, après avoir d'un signe fait entendre aux domestiques que la triste cérémonie était terminée. En effet, je me rappelle hier, lorsqu'Herminie m'a quitté, reprit Madame de Beauménil, je l'ai priée de revenir à cette heure. Mon médecin avait raison. La voix angélique de cette chère enfant, ses chants, d'une suave mélodie ont souvent apaisé mes douleurs. Prenez garde, dit le prêtre en revenant et se trouvant seul avec sa pénitente, madame, soyez prudente. Oh, je le suis, dit Madame de Beauménil avec un sourire amer. « Ma fille ne soupçonne rien. »« C'est probable, » dit le prêtre, « car le hasard, ou plutôt l'impénétrable volonté de la Providence, a rapproché cette jeune fille de vous depuis quelques jours. Sans doute le Seigneur a voulu vous soumettre à une rude épreuve. »« Bien rude, en effet, mon père, car il me faudra abandonner cette vie sans avoir jamais dit. »« Ma fille, à cette infortunée, hélas !» J'emporterai dans la tombe ce triste secret. Votre serment vous impose ce sacrifice, madame. C'est un devoir sacré, dit sévèrement le prêtre. Vous parjurer serait un sacrilège. Jamais, mon père, je n'ai songé à me parjurer, répondit Madame de Beauménil avec abattement. Mais Dieu me punit cruellement. Je meurs, forcé de traiter en étrangère mon enfant qui est là, à quelques pas de moi, agenouillé parmi mes gens, et qui doit toujours ignorer que je suis sa mère. Votre faute a été grande, madame. L'expiation doit être grande aussi. Depuis longtemps, elle dure pour moi, cette cruelle expiation, mon père. Fidèle à mon serment, n'ai-je pas eu le courage de ne jamais chercher à savoir ce qu'était devenu cette infortunée? Hélas, sans le hasard qui l'a rapproché de moi il y a peu de jours, je mourrais sans l'avoir revue depuis 17 ans. Ces pensées vous sont mauvaises, ma sœur, reprit pieusement le prêtre. Elles vous ont conduite hier à une démarche des plus imprudentes. Rassurez-vous, mon père. Il est impossible que la femme que j'ai recherchée hier, ostensiblement sans aucun mystère, afin d'éloigner tout soupçon, puisse douter de l'intérêt que j'avais à lui demander certains renseignements sur le passé qu'elle seule pouvait donner. Et ces renseignements, ainsi que je m'y attendais, ils m'ont confirmé de la manière la plus irrécusable ce que je savais, qu'Herminie est ma fille. Mais comment compter sur la discrétion de cette femme? Elle ignore ce qu'est devenue ma fille depuis 16 ans qu'elle a été séparée d'elle. Mais cette femme ne pouvait-elle pas vous reconnaître? Je vous ai confessé, mon père, que j'avais un masque sur la figure lorsqu'Herminie était venue au monde avec l'aide de cette femme. Et hier, dans mon entretien avec elle, je l'ai facilement persuadée que la mère de l'enfant dont je lui parlais était morte depuis longtemps. De ce coupable mensonge, il faudra encore que je vous absolve, ma sœur, reprit sévèrement l'abbé Ledoux. Vous voyez les fatales conséquences de votre criminelle sollicitude pour une créature qui, d'après votre serment, devait vous rester à jamais étrangère. Ah, ce serment, que le remords, que la reconnaissance, pour le plus généreux pardon m'ont arraché. Je l'ai souvent maudit, mais je l'ai toujours tenue, mon père. Et cependant, ma sœur, à cette heure encore, toutes vos pensées sont concentrées sur cette jeune fille. Toutes ? Non, mon père, puisque j'ai une autre enfant. Mais hélas, puis-je empêcher mon cœur de battre à l'approche d'Herminie, qui est ma fille aussi ? Puis-je empêcher mon cœur de voler au-devant du sien ? Il faut pourtant demander des choses possibles, car enfin, si à force de courage je parviens à commander à mes lèvres, à mes regards, à contraindre, à dissimuler tout ce que j'éprouve lorsque je sens Herminie près de moi, je ne peux pas non plus m'empêcher d'être mère. Alors, madame, il faut m'écouter, reprit sévèrement le prêtre. Il faut interdire à cette jeune fille l'entrée de votre maison. Vous avez pour cela des prétextes plausibles. Croyez-moi donc, remercie-la de ses services et... Jamais, dit vivement la comtesse. Non, jamais, je n'aurai ce courage. N'est-ce pas déjà assez malheureux pour moi, mon Dieu, que mon autre fille, dont la tendresse légitime m'eût été si consolante à cette heure, soit en pays étranger, pleurant son père qu'un terrible accident lui a enlevé, et qui sait, peut-être Ernestine aussi se meurt comme moi, pauvre petite. Elle est partie d'ici, si frêle, si souffrante. Oh, il n'est pas une mère plus à plaindre que moi. Et deux larmes brûlantes tombèrent des yeux de madame de Beauménil. Du courage, tranquillisez-vous, ma sœur, lui dit l'abbé Ledoux d'une voix onctueuse et insinuante. Ne vous désolez pas ainsi. Mettez tout votre espoir dans le Seigneur. Sa clémence est grande. Il vous tiendra compte d'avoir supporté chrétiennement cette cérémonie sainte, qui n'était, je vous l'ai dit, que de précaution. Dieu soit loué. Votre état, quoique grave, est loin d'être désespéré. Madame de Beauménil secoua mélancoliquement la tête et reprit. Je me sens toujours bien faible, mon père, mais plus calme, maintenant que j'ai accompli mes derniers devoirs. Ah, si je ne pensais pas à mes enfants, je mourrais en paix. Je vous comprends, ma sœur, dit le prêtre d'une voix doucereuse. Et comptant, mesurant, pour ainsi dire, les paroles suivantes, tout en observant avec une profonde attention la physionomie de madame de Beauménil, l'abbé Ledoux reprit. Je vous comprends, ma sœur. L'avenir de votre fille, légitime, je ne puis, je ne dois vous parler que de celle-là. Son avenir, dis-je, vous inquiète, et vous avez raison. Orpheline, si jeune, pauvre enfant. Hélas, oui, une mère ne se remplace pas. Alors, ma sœur, reprit lentement l'abbé Ledoux, en couvant la malade des yeux, pourquoi toujours hésiter? Assurer autant qu'il était en vous l'avenir de cette fille chérie. Pourquoi ne m'avoir pas permis depuis si longtemps que je vous demande cette faveur de vous présenter ce jeune homme si pieux, si bon, ce modèle de sagesse et de vertu dont je vous ai souvent entretenu? Votre cœur maternel aurait dès longtemps apprécié ce trésor de qualité chrétienne, et sûr d'avance de l'obéissance de votre fille à vos volontés dernières, vous lui eussiez recommandé par quelques lignes de votre main que j'aurais remises à cette chère enfant. Vous lui eussiez, dis-je, recommandé de prendre pour époux M. Célestin de Macreuse. Alors votre fille aurait eu un époux selon Dieu, car... Mon père, dit madame de Beauménil, en interrompant l'abbé Ledoux, sans pouvoir cacher l'impression pénible que lui causait cet entretien, je vous l'ai dit, je ne doute pas des qualités de la personne dont vous m'avez souvent parlé, mais ma fille Ernestine n'a pas encore 16 ans. Je ne veux pas engager ainsi son avenir, en lui prescrivant d'épouser quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Cette chère enfant a pour moi tant de tendresse, tant de respect qu'elle serait capable de se sacrifier ainsi à ma volonté dernière. N'en parlons plus, ma chère sœur, se hâta de dire l'abbé Ledoux d'un air contrit. En désignant à votre choix maternel M. Célestin de Macreuse, je n'avais qu'une pensée, celle de vous délivrer de toute inquiétude sur le sort de votre chère Ernestine. Seulement, permettez-moi de vous le dire, ma sœur, vous avez parlé de sacrifice. Ah, craignez au contraire que votre pauvre enfant ne soit un jour sacrifié à quelque époux indigne d'elle, à un homme impie, débauché, prodigue. Vous ne voulez pas, dites-vous, influencer d'avance le choix de votre fille, mais hélas, ce choix, qui le guidera, si elle a le malheur de vous perdre? Seront-ce des parents éloignés, toujours égoïstes ou insouciants? Ou bien, la trop naïve et trop crédule enfant s'abandonnera-t-elle en aveugle à l'impulsion de son cœur? Et alors, j'en frémis, ma sœur, à quelle déception, à quels irréparables chagrins ne sera-t-elle pas fatalement exposée? songer à la foule de prétendants que son immense fortune doit attirer autour d'elle. Ah, croyez-moi, ma sœur, croyez-moi, prévenez d'avance ces malheureux menaçants par un choix prudent et sensé.
Excusez-moi, mon père, dit madame de Beauménil, péniblement émue et voulant mettre un terme à cette conversation. Je me sens très faible, très fatigué. J'apprécie d'ailleurs tout l'intérêt que vous portez à ma fille, mais j'accomplirai mes devoirs de mère autant qu'il sera en moi. Vos paroles ne seront pas perdues, je vous l'assure, mon père. Que le ciel me donne seulement la force et le temps d'agir. »
Trop fin, trop rusé pour insister davantage à l'endroit de son protégé, l'abbé Ledoux dit avec componction « Priez le Seigneur de vous inspirer, ma sœur. Je ne doute pas qu'il ne vous éclaire sur vos devoirs de mère. Allons, courage et espoir. À demain, ma chère sœur. »
« Demain appartient à Dieu, » répondit la comtesse.
« Je vais du moins le prier qu'il prolonge vos jours, ma sœur, » répondit le prêtre en s'inclinant, et il sortit. À peine eut-il disparu que la comtesse, sonnant une de ses femmes, lui dit « Mademoiselle Herminie est-elle là ?»«
Oui, madame la comtesse. »
« Priez-la d'entrer. »
« Oui, madame la comtesse, » répondit la femme de chambre en sortant pour accomplir les ordres de sa maîtresse.
Herminie, pâle et profondément triste, calme en apparence, entra dans la chambre à coucher de madame de Beauménil, tenant sous son bras son cahier de musique.
« Madame la comtesse m'a fait demander, » dit-elle avec déférence.
« Oui, mademoiselle. »
« J'aurai une grâce à solliciter de vous, » répondit madame de Beauménil, qui s'ingéniait à trouver des moyens de se rapprocher, pour ainsi dire, matériellement de sa fille. « Je ne désirerais pas pour le moment demander à votre talent si suave, si expressif, les soulagements inespérés que je lui ai dus jusqu'ici. Il s'agirait d'autre chose. »
« Je suis aux ordres de madame la comtesse, » répondit Herminie en baissant les yeux.
« Eh bien, mademoiselle, j'ai à écrire une lettre de quelques lignes, mais je ne sais si la force ne me manquera pas. Je n'ai personne en état de me suppléer. Pourriez-vous au besoin, mademoiselle, me servir ce soir de secrétaire ?»«
Avec le plus grand plaisir, madame, » dit vivement Herminie.
« Je vous remercie de votre obligeance. »
« Madame la comtesse, veut-elle que je lui donne ce qu'il lui faut pour écrire ?» demanda timidement Herminie.
« Mille grâces, mademoiselle, » répondit la pauvre mère, qui cependant brûlait d'envie d'agréer l'offre de sa fille, afin de rester plus longtemps seule avec elle.
« Je vais sonner quelqu'un. Je ne voudrais pas que vous prissiez tant de peine.
Ce n'est pas une peine pour moi, madame. Si vous voulez bien me dire où je trouverai ce qu'il faut.
Là, sur cette table, près du piano, mademoiselle, il faudrait que vous eussiez aussi la bonté d'allumer une bougie. La clarté de cette lampe est insuffisante. Mais en vérité, j'abuse de votre complaisance, » ajouta madame de Beauménil, pendant que sa fille s'empressait d'allumer la bougie et d'apporter auprès du lit ce qu'il fallait pour écrire. La comtesse, ayant pris une feuille de papier à lettres qu'elle plaça sur un buvard posé sur ses genoux, reçut une plume de la main d'Herminie qui de l'autre tenait un bougeoir. Madame de Beauménil essaya de tracer quelques mots, mais sa vue affaiblie, jointe à la défaillance de ses forces, l'empêcha de continuer. La plume s'échappa de sa main tremblante. Alors, s'affaissant sur ses oreillers, la comtesse dit à Herminie en étouffant un soupir et tâchant de sourire « J'ai trop présumé de ma vaillance. Il faut que j'accepte l'offre que vous avez bien voulu me faire, mademoiselle. »
Il y a si longtemps que madame la comtesse est alitée, qu'elle ne doit pas s'étonner d'un peu de faiblesse, » reprit Herminie, qui sentait le besoin de se rassurer elle-même et de rassurer madame de Beauménil.
« Vous avez raison, mademoiselle, mais c'était une folie à moi que de vous leur écrire. Je vais donc vous dicter, si vous le permettez. »
Et comme Herminie, par discrétion, conservait son chapeau, la comtesse, à qui ce chapeau cachait une partie du visage de sa fille, dit avec un léger embarras
« Si vous vouliez ôter votre chapeau, mademoiselle, vous seriez, je crois, plus à votre aise pour écrire. »
Herminie ôta son chapeau, et la comtesse, qui la dévorait des yeux, put admirer à son aise, dans son orgueil maternel, le charmant visage de sa fille encadré de longues boucles de cheveux blonds.
« Je suis à vos ordres, madame la comtesse, » dit alors Herminie en s'asseyant devant une table.
« Veuillez donc bien écrire ceci, » répondit madame de Beauménil, qui dicta les lignes suivantes.
Madame de Beauménil aurait la plus vive obligation à monsieur le marquis de Maillefort
s'il pouvait se donner la peine de passer chez elle le plus tôt possible, fût-ce même à une heure assez avancée de la soirée. Madame de Beauménil, se trouvant très souffrante, est obligée d'avoir recours à une main étrangère pour écrire à M. de Maillefort, à qui elle réitère l'assurance de ses sentiments les plus affectueux. À mesure que Madame de Beauménil avait dicté ce billet, une de ses craintes, à la fois puériles et poignantes, qu'une mère seule peut concevoir, lui serrait le cœur. Délicieusement frappée de la parfaite distinction de langage et de manière qu'elle remarquait dans sa fille, reconnaissant en elle une artiste de premier ordre, la comtesse se demandait avec la craintive et jalouse inquiétude d'une mère si l'éducation d'Herminie était complète, si cette éducation n'avait pas été en quelque partie négligée au profit du grand talent musical de la jeune fille. Que dire enfin, car les plus petites choses deviennent importantes pour l'orgueil maternel. Dans ce moment, et malgré de graves et cruelles préoccupations, Madame de Beauménil ne pensait qu'à une chose. Sa fille savait-elle bien l'orthographe? Sa fille avait-elle une jolie écriture? Aussi la comtesse hésita quelques instants avant d'oser prier Herminie de lui apporter la lettre qu'elle venait d'écrire. Ne pouvant cependant résister à cette tentation, elle lui dit « Vous avez écrit, mademoiselle ?»«
Oui, madame la comtesse. »
« Auriez-vous la bonté de me donner cette lettre, afin que je voie si le nom de M. de Maillefort est écrit comme il convient, car j'ai oublié de vous en dire l'orthographe ?» ajouta la comtesse, ne trouvant pas de meilleur prétexte à sa curiosité. Herminie remit la lettre entre les mains de la comtesse. Quelle fut l'orgueilleuse joie de celle-ci. Non seulement ces quelques lignes étaient parfaitement correctes, mais l'écriture en était charmante. À merveille, je n'ai jamais vu de plus jolie écriture, dit vivement Madame de Beauménil. Mais craignant de laisser pénétrer son émotion, elle ajouta, plus calme, « Veuillez, mademoiselle, écrire sur l'adresse de cette lettre à Monsieur le Marquis de Maillefort, rue des Martyrs, 45. » Madame de Beauménil sonna sa femme de chambre de confiance et de qui seule elle avait l'habitude de recevoir des soins lorsqu'elle parut. « Madame Dupont, lui dit la comtesse, vous allez prendre une voiture et vous irez porter vous-même cette lettre à son adresse. Dans le cas où M. de Maillefort devait rentrer bientôt, vous l'attendriez. » « Mais, dit la femme de chambre, étonnée de cet ordre, dont tant de gens de la maison pouvaient être chargés, si Madame la Comtesse a, pendant mon absence, besoin de quelque chose, moi seul suis au service de Madame et... « Occupez-vous d'abord de cette commission, répondit Madame de Beauménil. « Mademoiselle voudra bien être assez bonne pour me donner ses soins si j'en ai besoin. » Herminie s'inclina. Pendant que la comtesse expliquait ses derniers ordres à la femme de chambre, Herminie, ne craignant plus d'être surprise, attachait sur Madame de Beauménil des regards remplis de tendresse et d'inquiétude, se disant avec une résignation navrante « Je n'ose la regarder qu'elle a dérobée, et pourtant c'est ma mère. Ah, qu'elle ignore toujours que je connais le triste secret de ma naissance !»